bizarre.
Exactement, c'est bizarre.
Je dis simplement, c'est bizarre. Première chose, bizarre. Deuxième chose, bizarre.
Je trouve ça pour le moins bizarre.
Vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays.
Non, mais les journalistes, vous avez ça d'extraordinaire.
Mais non, mais...
Vous foutez rien et vous reprochez aux autres de pas avoir fait. Non, vous foutez rien, vous n'avez pas écouté.
Les Concernés, l'émission de radio qui reprend la parole à ceux qui nous l'ont confisqué.
Bonsoir à tous et à toutes, on vous présente notre premier podcast des Concernés. Alors à ma droite, Nada Ziani, enchantée.
Bonjour.
Content que tu sois avec nous aujourd'hui.
Merci à vous de me recevoir.
Le plaisir est partagé. Georges Marzi. Bonjour. Narges.
Bonjour.
Walid Chatbi.
Bonjour.
Et Shaïma Bout.
Salut.
Alors le concept, il est très simple. On a choisi d'appeler cette émission « Les Concernés » parce que nous reprenons la parole à ceux qui cherchent à la monopoliser sur des sujets qui ne les concernent pas forcément. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Nada Ziani. On abordera avec elle et Narges la question du voile, sa place dans le champ politique, dans le champ artistique et stylistique. Du coup, je te laisse te présenter.
Merci. Donc, je m'appelle Nada Ziani, j'ai 22 ans, je suis étudiante en droit public sciences politiques en troisième année. Je suis à la tête de l'administration d'une société de prestation de services informatiques, une SS2I, et je suis notamment militante, la fondatrice et présidente de l'association Nous nous dévoilons.
On se lance du coup, juste avant cet entretien, le titre de l'artiste, il s'intitule La chanson, c'est assez simple, donc on se le lance tout de suite.
J'ai fait le tour de la terre, je l'ai vu la vraie misère. Je pensais connaître la misère. J'ai quitté la France, mais je l'aime. C'est elle qui me parle que de haine. Ils interdisent le hijab, de la justice en misaine. Y'en a qu'attendre le déjeuner.
J'ai quitté la France, mais je l'aime. C'est elle qui me parle que de haine. Ils interdisent le hijab, de l'injustice sans misaine. Qu'est-ce t'en dis, Nada?
Bon, sur le côté du hijab, je pense qu'on peut tous être d'accord. Après, je pense que c'est un petit peu dur de parler que de haine. Mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retient aussi dans ce pays qui se dit pays promouvant les libertés des droits de l'homme, qu'une chose aussi futile porte l'attention, un foulard sur la tête, malheureusement, et que oui, que ce genre de pratiques soient interdites en France sans aucune réelle justification qui soit fondée, qui soit réellement bien expliquée. Donc, mais bon, c'est vrai que parler de haine, je pense que pour le coup, c'est un peu provocant.
Ouais, je pense que
sa façon de faire est un peu provocante, mais je comprends un peu.
On pointe l'hystérisation des débats autour du voile, du hijab et la situation assez tendue autour de ce sujet-là. Du coup, je laisse la parole à Narges.
Merci Samir. Donc, je vais commencer par une petite question assez simple. J'aimerais savoir comment est né ton engagement dans les associations.
Alors, il faut savoir que j'ai très très jeune, je me suis lancée dans le monde associatif et dans le monde professionnel. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours emmenée à des soirées caritatives. Et de là, en fait, donc dans un premier temps, j'ai commencé avec les soirées caritatives. Puis après, ils ont commencé à nous emmener à des conférences sur des thématiques philosophiques, des thématiques sociologiques. Et de là, en fait, est née une certaine pulsion en moi qui commençait à me dire oui, mais en fait, je sais que dans quelques temps, moi, j'étais toute jeune, j'avais 10 ans, je savais que je voulais porter le foulard à un moment donné. Et je savais que dans ce pays, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc, c'était à ce moment-là où je me suis dit, de toute façon, personne ne pourra mieux parler de moi que moi-même. Et de là, j'ai commencé du coup à me lancer dans le monde du professionnel, à me lancer dans le monde associatif. J'ai rejoint la première association Human Appeal quand j'avais 16 ans, chez qui j'ai travaillé pendant à peu près 5 ans en tant que
Du coup, on s'est rencontrés là-bas.
On s'est rencontrés là-bas. Et aujourd'hui, j'enchaîne un peu. Je suis à la tête de plusieurs associations, mais mon association principale, ça reste Nous nous dévoilons.
Du coup, en parlant de Nous nous dévoilons, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton association?
Alors, Nous nous dévoilons est né en fin 2019, en plein milieu des polémiques qui existaient à ce moment-là. L'idée, en fait, dans un premier temps, c'était de... Mon initiative, c'était de faire parler les femmes qui portaient le foulard, d'où le jeu de mots « nous nous dévoilons », parce qu'on parle beaucoup de voile en France. D'ailleurs, je trouve que ce n'est pas un terme qui est adapté à ce que moi, je porte sur la tête. Je porte un foulard, je ne me voile pas aux yeux de la France. Au contraire, j'essaie de construire des projets qui me rendent encore plus visible. Donc, l'idée, c'était de donner la parole à ces femmes via un petit... un court-métrage, leur donner la parole et en fait dévoiler leur, leur parcours professionnel, dévoiler leurs compétences professionnelles, montrer ce que les foulards qu'elles portent sur la tête, ce qu'ils préservent, ce qu'ils protègent. Et donc de là, en fait, de cette première initiative, j'ai décidé de lancer l'association Nous nous dévoilons, dans, ayant pour but en fait de promouvoir le monde de l'entrepreneuriat et le développement culturel, intellectuel, parce que pour moi, pour créer en fait sa place dans la société, il est plus qu'important, en fait, premièrement, de se cultiver, de chercher à comprendre ce qui se passe, de comprendre le dialogue, mais aussi de savoir écouter et de répondre à ce dialogue de façon intelligente, d'avoir de bonnes réactions. Ensuite, pour le côté entrepreneuriat, bien évidemment, là, on parle du pôle économique, qui est un pôle extrêmement fort, surtout en France. C'est un pôle qui parle aussi fort que le politique. Donc forcément, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, parce que je l'ai vécu, m'a beaucoup attiré. Et j'ai voulu, en fait, par le biais de cette association, remettre en avant cet aspect-là. Donc le but de l'association, c'est de promouvoir le monde de l'entrepreneuriat et le développement culturel, intellectuel, mais aussi en fait par le biais d'initiatives, on mène des initiatives un peu plus humanistes, en l'occurrence une fois on a mené du coup le projet pour les femmes qui portent le foulard.
On dit que 59% de discrimination proviennent des services publics, selon les rapports du CCIF. Est-ce que le voile est un frein aux études et à ta carrière professionnelle ?
Alors, en ce qui me concerne, j'ai, je pense, toujours eu les épaules assez solides qui ont fait que, voilà, j'ai décidé de me lancer dans un milieu qui peut être compliqué, peut paraître dangereux, parce que je suis quand même en sciences politiques et en droit public. C'est pas forcément là où on accueille le plus de personnes portant le foulard. Mais c'était ça, en fait. L'idée, c'était que je voulais aller là où on ne m'attendrait pas. Petite anecdote, j'étais l'une des seules... personne portant le foulard dans mon amphithéâtre. Là, aujourd'hui, je suis en troisième année, ça va, il y en a un peu plus qui ont commencé à y mettre les pieds. Mais c'est vrai que je pense que c'est, tout dépend en fait de la force mentale de chacun. Parce que pour moi, ayant vécu l'islamophobie, des actes islamophobes, parce que je suis dans le 6e arrondissement de Paris, donc voilà, on sait que c'est un peu plus la droite qui prône dans cet arrondissement. Je l'ai vécu, l'islamophobie. Bon, pour ma part, Dieu merci, bon c'est bizarre de dire ça, mais seulement des agressions verbales, non pas physiques. Mais c'est vrai que c'est pour quelqu'un qui n'aurait pas en fait cette force mentale, qui serait peut-être un peu plus fragile, ça peut paraître compliqué. Voilà, c'est aussi un travail sur soi qui est très important. Ne pas se donner de barrières parce que un tel a dit non ou parce qu'on essaie de vous mettre des freins. C'est parce qu'on essaie de vous mettre des freins qu'il faut essayer d'aller encore plus loin.
C'est un gros message là que t'envoies. Je passe à la deuxième question. Suite aux événements récents, est-ce que tu pourrais commenter la situation des musulmans de France, notamment après la dissolution du CCIF et l'actuelle loi du séparatisme ?
Je pense qu'il y a un souci au niveau de la réaction des musulmans, d'une certaine façon, dans le sens où il y en a qui réagiraient de façon un peu plus, entre guillemets, agressive, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de provocations. Je pense que tous les textes qui sont un peu en train de passer cherchent surtout à limiter les pratiques de l'islam. On essaie d'une certaine façon de nous provoquer. Il faut savoir comment répondre de façon intellectuelle et plus intelligente, tout simplement. Et je pense que de ce fait, il faut vraiment s'appuyer sur l'éducation de ses enfants. Comment est-ce qu'on éduque, pas forcément ses enfants, mais comment est-ce qu'on éduque notre jeunesse, comment est-ce qu'on éduque notre génération, musulman ou pas, parce que l'idée, ce serait pas seulement de faire véhiculer un message auprès de notre communauté musulmane, mais et surtout auprès de ceux qui ne sont pas musulmans.
Ma question est un peu plus longue ici. La France se bat pour l'émancipation, pardon, de la femme, leur liberté, notamment comme tu as pu le voir à travers leur participation au combat mené contre le port du voile en Iran. la présence des femmes voilées en France viendrait contredire et décrédibiliser cette cause, selon certains médias. Qu'en penses-tu ?
Moi, j'aimerais dire à ces personnes et à ces certains médias que si vous dites vous battre pour la liberté de la femme, alors nous menons exactement le même combat. Parce que nous empêcher ici de le mettre pour les dévoiler ailleurs, pour, en disant « Oh non, mais on aide les gens là-bas à ne pas le mettre, et ici, comment est-ce que... » Personne n'est forcé à le mettre. Personne n'a à être forcé à le mettre. Donc si vous dites vous battre pour la liberté des uns et des autres, pourquoi vouloir me retirer la mienne en me forçant à retirer un foulard ?
Ouais, chaque femme a sa place. Je constate que tu as été interviewée par des médias internationaux, notamment Al Jazeera et BBC. C'est la première fois que tu t'exprimes à travers les médias français.
Oui.
Et pourquoi ?
Tout simplement parce que les médias français ne viennent pas nous voir. Ils ne nous demandent pas notre avis. Sur 80 débats, il n'y a qu'une seule personne qui porte le foulard, qui a été consultée l'année dernière, il me semble. C'était Sarah El Attar. Et depuis, plus personne.
Comment elle l'a écrasé dans le débat.
Ouais.
Ah, c'était...
Ouais. Pour eux, je crois qu'ils n'ont pas voulu renouveler.
Ah,
ouais. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'on n'en a plus revu, du coup.
Ouais.
À mon avis. Hein.
Bah, c'est bien dommage.
Ça doit être super lié.
Dédicace à ITélé, Pascal Pro, Eric Zemmour et tous nos amis.
Non, mais l'idée, ce serait quand même... Enfin, l'idéal, ce serait quand même d'arriver à un jour où on dépasse tellement ce stade qu'en fait, on... qu'on ramènerait sur les plateaux télé des femmes qui portent le foulard, mais pour parler de leur domaine professionnel. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas juste là, en fait, avec un foulard sur la tête à parler d'islam.
Ouais, je suis d'accord.
Excuse-moi, hein, je trouve qu'il faudrait aussi légitimer, en fait, le fait d'avoir un foulard.
Oui, voilà.
Notamment dans le milieu des médias, quoi. Ça ouais. serait super intéressant.
Ouais.
Le fait de déshystériser le débat, en fait, c'est ça. Parce
ouais.
que les gens deviennent fous dès qu'on parle de voile.
Arriver, en fait, à un stade où on arrive à vraiment la normalisation de cette, entre guillemets, différence. Ce serait un jour pour la France, on l'espère.
Une belle avancée.
On l'espère, un jour. Bah, du coup, on termine sur une note un peu plus positive. Les femmes musulmanes portant le foulard ont dû souvent trouver d'autres alternatives, notamment l'entrepreneuriat. Que pourrais-tu dire à ce sujet, et quels sont les domaines ouverts et accessibles à ces femmes ?
Déjà, puisque c'est de l'entrepreneuriat, donc j'estime tous les domaines, puisqu'elles sont leurs propres patronnes. Puis si c'est un concept qui leur va très bien, bah, je ne peux que les encourager. Bon, après, c'est vrai que l'esprit entrepreneurial, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas forcément un concept qui ira à tout le monde. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec le salariat, vraiment pour assurer une certaine stabilité. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, en tant que présidente de l'association Nous Dévoilons, je ne peux qu'encourager ces initiatives.
Ouais, mais ça fait un peu peur quand même, l'entrepreneuriat.
Ben, ouais. Faut vouloir se lancer, faut y aller, quoi. Faut avoir les épaules solides parce qu'il y a pas mal de... On peut faire face à pas mal d'obstacles.
Après, ouais. Je pense aussi qu'il faudrait être autonome aussi.
Oui.
Autonome et prêt à rentrer dedans.
Énormément d'autonomie aussi.
Ouais. Ouais, c'est,
faut être rassuré quand même parce que c'est bien beau de dire je me lance. Faut quand même être assez réaliste et se donner les moyens de se lancer.
Quel conseil pourrais-tu donner aux femmes qui subissent ces agressions et discriminations, qui se trouvent dans une impasse face à leur carrière professionnelle ?
Je sais que c'est facile à dire et plus difficile à faire, mais essayez de vous construire et vraiment de faire de ce sentiment de, entre guillemets, victimisation, en faire en fait votre force et que cette sensation en fait vous donne encore plus envie de vous exprimer et vous exprimer oralement ou par votre façon de vous imposer en tant que la personne que vous êtes et surtout essayer de... Je sais que c'est difficile, donc dire passer outre, c'est compliqué, mais vraiment, en fait, continuez à vous construire et puis bon, malheureusement, des bons et des mauvais, il y en a partout. Je sais qu'on parle beaucoup de la France parce que c'est quand même un cas où l'islamophobie est assez élevée, mais voilà, il y a des discriminations envers malheureusement tout type de profil, tout type de personnes, il ne faut pas l'oublier. Voilà, nous on parle beaucoup ici, aujourd'hui on parle surtout d'islam, mais voilà, toutes les personnes qui subissent des discriminations raciales, c'est aussi compliqué, des discriminations par rapport à leur sexe, voilà, c'est... Faut se construire mentalement, il faut devenir, faut avoir un vrai travail sur soi et savoir connaître sa propre valeur.
Je voudrais savoir, si tout d'abord, est-ce que tu as été par exemple à l'étranger? Mm-hmm. Et si oui, du coup, je voudrais savoir si tu as été, enfin, tu as vu ce genre de discrimination, est-ce qu'il y en avait plus ou il y en avait moins?
Alors, j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager dans ma vie. Ce qui est drôle, c'est que les discriminations contre l'islam, c'était par des touristes français. Donc quand j'étais à Londres, je faisais la queue pour le London Eye. C'était juste après les attentats de Charlie Hebdo. Non, c'était après le Bataclan, pardon. C'était après le Bataclan. Et je me souviens que j'étais avec ma mère et une amie à elle, et toutes les trois ont porté le foulard. Et il y avait juste derrière moi un papa et sa petite fille, qui vraiment était toute petite, elle devait avoir 4 ans, et qui, en fait, en nous regardant, elle avait l'air terrorisée. Et j'entends son père dire, j'entends pas ce que la petite fille dit, mais j'entends quand même son père dire, non, non, t'inquiète pas, celles-ci, elles ont pas une tête de terroriste. Et en fait, quand on reprend un peu l'analyse, c'est que, ben, l'idée, c'est qu'est-ce qui est dit en fait à la maison, qu'est-ce qui est raconté à cette petite fille, pourquoi est-ce que quand elle me verrait moi avec un foulard, pourquoi est-ce qu'elle devrait ne pas se sentir en sécurité? Donc voilà.
Du coup, j'ai fini mes questions, Nada. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Courage à toutes les femmes, aux femmes voilées, à toutes les origines, à toutes les personnes qui subissent des discriminations. En tout cas, merci encore. Je passe la parole à Monsieur Samir.
Monsieur Samir, merci pour cette belle formule de respect. Moi, je voulais reprendre un peu une tonalité positive. J'ai regardé le compte Instagram de Nous nous dévoilons. Mm-hmm. Et mes yeux se sont posés sur la dernière publication. Vous présentez Hanan El-Badri, je crois.
Oui.
Elle est donc étudiante en biochimie. J'ai vu qu'elle s'intéressait à l'art et à la photographie. Mm-hmm. Et en fait, on voit avec ce post que... la nouvelle place que peut occuper le voile sur la scène artistique. Mmh. Et on peut voir qu'en plus de l'aspect religieux, il peut être conçu comme peut-être un nouvel accessoire de beauté.
Accessoire de beauté, je pense que bon, il y en a qui ne vont pas être très contentes en écoutant ce podcast. Moi, personnellement, je suis femme de mode. J'aime beaucoup ça. Donc forcément, je joue beaucoup en fait, de mon style. Et notamment du style de mon foulard. Voilà, je suis le genre de personne qui sort avec un chapeau sur son foulard, un béret, sans, bref. Donc, c'est vrai que bah, l'aspect, en fait, puisque c'est quelque chose de physique que l'on voit, donc forcément, quand c'est physique, ça fait, entre guillemets, partie de l'esthétique. Donc, moi, je ne suis pas du tout contre et je suis même pour le fait que, voilà, que les femmes cherchent à se mettre belles avec un foulard. Donc, ouais, sur l'aspect de la mode, de l'art, etc., le foulard, on a une montée du mouvement Modest Fashion, qui est, entre autres, la mode pudique, qui, vraiment, on voit dans un peu tous les commerces aujourd'hui en France, notamment chez H&M, voilà, on retrouve pas mal de vêtements qui sont assez, assez couverts. C'est parce qu'il y a aussi une certaine montée dans cet aspect-là. On a un peu plus des modèles dans le monde de la mode qui portent le foulard. On en retrouve dans les couvertures de magazines, etc. C'est vraiment un mouvement qui commence à s'inscrire même dans les codes de la mode et de l'art en général.
Effectivement, c'est positif. Ça peut contribuer aussi à dédiaboliser un peu ce que les gens pensent. Exactement. Et toutes les idées reçues sur ce foulard. Et je crois que Narges va intervenir.
Désolée, j'ai failli oublier. Il faut aller voir leur compte Instagram, Nous nous dévoilons. Je fais aussi partie de cette association.
Oui.
Dans le côté artistique, je suis photographe. Du coup, la dernière fois, on a fait un shooting avec Nada.
Mm-hmm.
Nous allons donc passer maintenant à la chronique photo. Narges va nous présenter quelques photographies.
Je vais présenter une seule photo. Et en parlant de ça, Nada Ziani fait partie de la photo. Elle est dans la photo, bien sûr. Exactement, tu as posé dans cette photo. C'est le premier shooting qu'on a pu faire ensemble. Donc, tu me diras ce qui représente pour toi cette photo. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi?
J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'on est rentré. Bah, du coup, on a fait le shooting dans un château. Donc, l'aspect artistique y est. J'aime beaucoup cette photo. C'est d'ailleurs une de mes préférées. Enfin, je vous invite à la regarder. C'est l'une de mes préférées. De ce shooting, elle représente une forme de petite diversité, parce que je pense pas qu'on puisse vraiment parler de grosse diversité à partir du moment où, où on prend qu'une personne de chaque ethnie. Mais voilà, c'était, c'est une photo belle en couleur, qui est très artistique et surtout qui reprend, ça fait très Léonard de Vinci et tout ça. Moi j'aime beaucoup.
Je peux avoir ton avis
sur la photo d'ailleurs.
Bah voilà, je veux avoir ton avis, Samir, aussi.
Non, moi je suis d'accord sur le, ce que tu viens de dire, qui a fait un peu Léonard de Vinci, a fait un peu Renaissance, tu vois, ouais. avec les couleurs, avec le décor dans ce château. Les couleurs noires et blancs des habits, je trouve que ça fait ressortir encore plus l'aspect esthétique de la photo. Et du coup, ben, je salue le travail qui a été fait lors de ce shooting. Par Nargès.
Merci beaucoup.
Inutile de rappeler bien évidemment le caractère esthétique de cette photo. Je trouve que, bien sûr, non, plus sérieusement, il y a un côté cosmopolite qui ressort de cette photo. J'ai juré, j'ai pas fait le con cette fois, j'ai vraiment dit ce que je pensais.
Pour moi, elle représente la classe des femmes, leur beauté, leur prestige. Elles sont toutes différentes de différentes origines et différentes croyances. Mais au niveau du visuel, on voit que des magnifiques femmes. On remarque qu'elles ont de la prestance. Et c'est ça que j'aime dans cette photo. Elle illustre le savoir-vivre.
Merci. Étant donné que j'en fais partie, fallait bien.
On reçoit bien les invités ici. On leur fait plein de compliments. C'était un plaisir, en tout cas, d'animer cette première avec vous. Merci Nada.
Merci de m'avoir reçu.
Georges, merci.
Merci à toi.
Merci Shaima.
Merci à toi Samir.
Merci Walid, Narjez.
Merci à toi Samir et merci à Nada d'être venue.
Merci à vous. Et très beau projet que celui-ci continue d'illuminer.